n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Caméra Subjective, un rendez-vous auquel nous vous attendons un mercredi sur deux à 19h pour parler de cinéma.
Cette émission est une conversation avec celles et ceux qui fabriquent le cinéma, mais aussi qui le regardent ou qui le programment.
Vous y entendrez des chroniques, des critiques, des musiques et bien d'autres surprises radiophoniques.
Alors ce soir, nous sommes heureuses.
Heureuses de vous retrouver.
Heureuses de nous lancer dans une nouvelle saison radiophonique.
Et heureuses surtout d'agrandir notre équipe. Pour cette deuxième saison, nous nous sommes démultipliés. Et vous allez découvrir de nouvelles voix, de nouveaux regards.
Dans Caméra Subjective, vous entendrez cette année Cécile.
Bonsoir.
Matt.
Bonsoir.
Nicolas.
Bonsoir.
Lisa.
Bonsoir.
Et aux côtés des voix habituelles de Margot.
Bonsoir.
Véro. Véro.
Bonsoir.
Et salut.
Et Annelie.
Ensemble, on vous propose une émission qui s'inventera au fil de nos présences et où chacun, chacune parlera à sa façon du cinéma.
Au programme de cette émission, Margot vous parlera du film Libre Garance qui sort la semaine prochaine et nous entendrons sa réalisatrice, Lisa Diaz.
Avec Matt, on inaugure une chronique humour que nous lui avons confiée avec une confiance aveugle et une grande joie.
Notre invitée est Céline Deveau, elle nous parlera de son premier long métrage, Tout le monde aime Jeanne, qui est actuellement en salle.
Et on commence avec une nouvelle voix de l'émission, celle de Sandra, qui est partie se promener à Deauville. Voici ses impressions du Festival du cinéma américain, qui s'y est tenu toute la semaine dernière.
Chaque année, depuis 2009, je me fais ce petit plaisir à l'heure de la rentrée. Retrouver en Normandie mes amis cinévores et me délecter en leur compagnie d'autant de films que possible. Soit deux bonnes raisons de se lever à 5h30 du matin. Quand on s'y rend depuis aussi longtemps, on a ces petits rituels. Retrouvailles devant l'hippodrome, avant de se diriger vers le CID, Centre International de Deauville, pour récupérer le pass magique, et hop hop hop, c'est parti pour la première séance. La programmation du festival fait se côtoyer têtes d'affiche et illustres inconnus. Fiction et documentaire, jeunes cinéastes et grandes figures, films indépendants et grandes productions hollywoodiennes. Alors, mon challenge perso, c'est de me concocter un planning qui me permette de goûter un peu à tout dans le temps dont je dispose. En général, j'essaie de voir 4 films par jour.
Sandra, quel a été ton programme cette année ?
J'ai assisté à 15 séances en 4 jours, profitant un peu de chacune des sélections. Seulement 15 films sur la 60aine qui étaient présentés. Quelle frustration ! Car oui, il n'y a que 3 lieux de projection, mais non, on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Et oui, il y a des films qu'on veut absolument voir, mais non, ils ne passent évidemment pas au moment où on est là. Bon, je ne boude quand même pas mon bonheur. Quel délice que de s'enfoncer dans un siège tout au fond du cinéma Le Morny, mon préféré, et de se délecter d'un Fritz Lang en noir et blanc tourné en 1947 en pellicule. Car oui, un festival de ciné, c'est aussi l'occasion de séances de rattrapage.
Et côté nouveauté, est-ce que tu reviens avec un ou plusieurs coups de cœur ?
Pour cette édition 2022, ma jolie surprise vient d'un film que je n'avais pas prévu d'aller voir. Scrap, de Vivien Kerr, qui a su me toucher. L'histoire, comment une trentenaire de la classe moyenne, qui a perdu son travail, fait tout pour sauver les apparences et cacher sa situation à son frère et la femme de celui-ci, qui s'occupe de sa petite fille. Précisons que notre protagoniste a un caractère parfois inconséquent. C'est à la fois très juste, ancré dans le réel, léger, mais ce qui m'a conquise, c'est le traitement de la relation entre frères et sœurs. Les voir se chamailler tout en s'entraidant est assez jubilatoire. Il y a beaucoup de tendresse dans ce film, et il aborde de nombreux thèmes, des difficultés de la recherche d'emploi, au parcours semé d'embûches de la fécondation in vitro et la façon dont le couple y fait face. J'ajoute une mention spéciale aux techniciens qui ont réussi à tourner autant de scènes dans l'espace confiné d'une voiture sans jamais nous donner l'impression d'étouffer. Bref, un chouette petit film, délicat et lumineux, dont j'espère qu'il trouvera un distributeur en France. Plus généralement, dans toutes les productions que j'ai pu voir, c'est une histoire des États-Unis qui se dessine, en sujet principal du scénario ou en filigrane au récit. Les intrigues font parfois douloureusement écho à l'actualité. Je pense par exemple au film « Call Jane » sur les avortements clandestins de la fin des années 60, ou à « War Pony » sur les conditions de vie dans une réserve amérindienne, qui a d'ailleurs reçu le prix du jury, ou encore à « Alice » sur l'histoire des Noirs américains. D'ailleurs, ce dernier film, que je qualifierais sans en dire plus de d'étonnant et atypique, sort le 26 septembre en VOD.
Et entre toutes ces séances, est-ce que tu as quand même eu le temps de profiter de Deauville ?
Ah, Deauville ! Son immense plage impeccable, ses parasols colorés, et bien sûr, ses planches, célèbre promenade en latte de bois, la croisette du Nord, peint sur les petites barrières qui délimitent les cabines de bain, les plus grands noms d'Hollywood. Un vrai voyage. On part ailleurs aussi quand on se balade en centre-ville. J'ai toujours cette impression de me retrouver à Disneyland, avec ses rues pavées d'une propreté immaculée, carrément suspecte, ses maisons à colombages en parfait état, le Palace Normandie, les boutiques inaccessibles, le casino, tout sent le luxe et la fantasmagorie. Je termine cette chronique avec quelques anecdotes sur l'envers du décor. Le restaurateur qui déplore l'absence de stars et regrette l'époque où Clint Eastwood circulait tranquillement dans la rue. Celle où Bill Murray venait s'installer à côté de vous en terrasse de café. Oui, expérience vécue. Le bar qui refuse de vous servir à l'intérieur car il peut facturer davantage avec la vue sur le sable. Le sourire discret de Vincent Lindon qui s'installe quelques rangs devant vous. Les files d'attente, où on discute avec des inconnus avec qui on crée, pendant un instant, une connivence de gens qui partagent la même chance. Enfin, un grand bravo à l'interprète, qui anime les échanges avec les équipes invitées, pour la maestria de sa traduction et ses questions bien ciblées. Voilà, j'ai explosé mon budget resto, j'ai beaucoup ri, surtout hors des salles, j'ai versé une larme ou deux, dans le noir, j'ai été surprise, agacée, émue. Je me sens vraiment fortunée de m'être autant nourrie visuellement, intellectuellement et émotionnellement pendant ces quelques jours. Allez, c'est terminé pour cette année. Retour à la vraie vie. Nostalgie. Clap de fin.
Autre festival, autre film, on poursuit avec « Tout le monde aime Jeanne » de la réalisatrice Céline Deveau. Il était présenté en avant-première à Angers pendant l'estival Premier Plan. Et vous pouvez désormais le découvrir au cinéma. Margot, tu as eu la chance de rencontrer Céline Deveau.
C'est vrai. Céline Deveau, vous vous en souvenez peut-être, elle est venue plusieurs fois au festival Premier Plan, où elle a notamment présenté un court-métrage d'animation mémorable, Le Repas Dominical, qui avait ensuite remporté le César du meilleur court-métrage. Alors, Tout le monde aime Jeanne, c'est son premier long-métrage, avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte dans les rôles principaux. J'ajoute tout de suite que l'une des particularités du film, c'est de réserver une place importante à un personnage en animation très drôle, qui représente la voix intérieure de Jeanne. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce du film, avant d'en parler avec sa réalisatrice, Céline Deveau.
Tu es une femme extraordinaire, Jeanne.
Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année ?
Mais t'es la femme du siècle, ouais !
C'est beaucoup.
Menteuse !
Il lui est arrivé quoi déjà à la femme de l'année ?
Vous êtes
à un poil de la faillite personnelle.
Notre mère est décédée.
Elle vous a laissé des biens.
Un appartement à Lisbonne.
Moi, je vous dirais de vendre cet appartement.
Ouah, la tronche. Ça se trouve, tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. À tous les coups, il va venir te voir.
Bip, 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 bip.
Jeanne ?
On se connaît ?
Bah oui, tu te souviens pas ?
Ah, aucun souvenir.
En tout cas, t'es pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que t'allais mourir jeune. Donc je suis très content de voir que t'es en vie.
Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs.
Inutile de vous dire que l'une des grandes réussites de Tout le monde aime Jeanne, c'est ce mélange subtil des tons entre gravité et autodérision dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître. Car sous les attraits de la comédie, le film aborde avec brio des thèmes universels et forts. Alors, je vous plante maintenant rapidement le décor de l'entretien. C'était le soir de l'avant-première à l'Estival et j'ai retrouvé Céline Devaux dans une ruelle derrière les 400 coups entre deux Porsches. Situation assez cocasse et finalement pas si éloignée de l'ambiance du film qui se déroule en grande partie dans les rues de Lisbonne, là où Jeanne est venue vider l'appartement de sa mère avant de le mettre en vente. Et Lisbonne, c'est aussi là qu'habite Jean, un ami d'enfance un peu collant qui aborde Jeanne à l'aéroport. La suite, c'est avec Céline Devaux qu'on en parle.
Bonjour Céline Devaux, vous êtes la scénariste, la réalisatrice et l'animatrice du film « Tout le monde aime Jeanne », votre premier long métrage. Alors c'est un film très original dans son propos et dans sa forme. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre intention initiale, peut-être la façon dont vous avez écrit le film ?
Bonjour. Alors, en fait, je voulais écrire un film sur la honte et sur la voix intérieure que beaucoup d'entre nous avons dans divers moments de nos vies. Et le personnage de Jeanne, qui est joué par Blanche Gardin, vit un moment très très compliqué et il s'avère que sa voix intérieure est donc un peu démultipliée et la harcèle de plus en plus.
Alors ça fait justement partie d'une des originalités du film, c'est un film en prise de vue réelle, mais il y a aussi ces courtes séquences animées qui viennent le rythmer pour justement illustrer cette voix intérieure. Comment est-ce que vous avez imaginé ces séquences animées ? Est-ce qu'elles étaient prévues dès le départ ?
Oui, c'était prévu dès le départ, parce que comme mon idée c'était de mettre en scène ce qu'on pense pendant qu'on vit quelque chose, je voulais le rendre visuel. Donc la voix intérieure est représentée par une petite créature qui est une sorte de perruque avec des jambes et des mains et qui passe son temps à se foutre de la gueule de Jeanne, à lui rappeler à quel point elle est nulle, des souvenirs d'il y a 10 ans, si elle a un truc entre les dents, enfin voilà, c'est à la fois trivial et très vaste.
Effectivement, en fait, il y a une séquence au tout début du film où on voit à l'image Blanche Gardin qui interprète Jeanne marcher dans la rue. Et puis, très rapidement, on entend cette voix qui est à la fois d'abord très dans l'autoglorification. Et puis, assez vite, on voit qu'on change de temps et qu'on arrive vers quelque chose d'un petit peu plus désespéré. En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer par la comédie pour parler de thématiques qui sont quand même beaucoup plus profondes, peut-être plus graves ?
En fait, je crois que dans la vie, on a rarement une émotion unique. Donc, en fait, c'est souvent dans les situations les plus graves qu'on peut avoir des fous rires, donc un peu le syndrome du fou rire à l'enterrement. Et je voulais que le film soit à l'image de ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est très rare d'avoir une seule émotion. On est souvent traversé par 5 ou 6 émotions en même temps. Et donc, Jeanne qui vit des choses difficiles entre le deuil, un échec professionnel et tout ça. Et ben, le fait de le raconter de manière drôle, c'est aussi une manière d'être un peu plus généreux et peut-être un peu plus réaliste sur la vie.
Et par ailleurs, ça crée une vraie complicité avec les spectateurs. Ça, c'est quand même c'est très fort dans le film.
Ben, merci.
Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on découvre assez vite que cette voix intérieure du personnage n'est pas interprétée par Blanche Gardin, qui interprète ce personnage principal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui parle et pourquoi, en fait ?
Donc en fait, la voix de la petite créature qui harcèle le personnage de Jeanne, c'est la mienne. Parce que donc on a tourné le film à Lisbonne, puis quand on est rentré, j'avais le bout à bout du film et j'ai fait tous les dessins de l'animation. Et puis je suis revenue en montage, et là, pour faire avancer le montage, j'enregistrais la voix témoin de ce personnage, parce qu'il fallait qu'on avance dans la narration. Et je faisais ça avec mon iPhone, accompagné par ma monteuse Gabrielle Stemmer. Et en fait, au fur et à mesure, tout le film s'est construit sur cette voix que je faisais allongée sur un canapé en pensant que ça resterait jamais, quoi. Et puis un jour, on s'est dit, bon, bah, ça va rester, puisque c'est comme ça que le film est écrit. Et donc, voilà, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'enregistrements à l'iPhone dans ce film, parce que j'ai essayé de les réenregistrer de manière très propre et ça n'a pas fonctionné. La spontanéité était plus forte.
Ce que je trouvais aussi d'intéressant dans le film, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu sa relation paradoxale avec le réel, avec d'un côté des éléments qui sont volontairement en décalage, donc ces séquences animées, parce qu'a priori, cette petite voix, elle dit tout haut ce qu'en général on pense tout bas, et puis même les situations de comédie qui sont volontairement assez outrées, et en même temps une approche des personnages qui est assez, il me semble, assez réaliste. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la construction, l'écriture de ces personnages?
En fait, le but, c'était de faire en sorte d'être au plus proche de la vie, quoi. Après, bon, ça, c'est une intention que n'importe quel réalisateur ou réalisatrice a, je suppose. Mais souvent, dans la vie, on rencontre des gens et puis on essaye de les classer assez rapidement pour être sûr de ce à quoi on a affaire, quoi. Lui, bon, bah, le personnage de Jean joué par Laurent Lafitte, bon, bah, lui, c'est un gros lourd. Voilà, on a décidé que c'était un gros lourd. Il arrive à un moment où son rôle, c'est celui d'être un gros lourd. Et j'aime bien ce moment où on se rend compte qu'on s'est trompé et que, en fait, on se dit, on se rend compte que c'est vraiment de notre faute si on a perdu autant de temps à juger quelqu'un. Et c'est un film qui parle beaucoup de la perception qu'on a de soi et de la perception qu'on a des autres. Et où, en fait, quand même, les trois quarts du temps, on se trompe vastement.
Effectivement. Alors, pour peut-être entrer un petit peu plus dans les détails, le film repose sur un duo de choc, presque un duo burlesque, avec les personnages de Jeanne et de Jean. Donc Jeanne, c'est Blanche Gardin, et Jean, c'est Laurent Lafitte. Comment est-ce que vous avez construit en fait ce duo?
J'écrivais à un moment dans l'écriture où j'avais du mal à avancer. J'ai imaginé en rêvant complètement, parce que je ne la connaissais absolument pas à l'époque et je l'admirais beaucoup, que Blanche Gardin joue le rôle de Jeanne. Et ça m'a aidé à écrire le personnage. Et en fait, il s'avère que quand elle a lu le scénario, elle a accepté de le faire, ce qui était quand même une très bonne nouvelle. Et évidemment, pour jouer Jean face à Jeanne, il fallait que ça fonctionne, quoi, qu'il y ait un truc très surprenant. Et en fait, Laurent Lafitte, il est un peu à contre-emploi d'une certaine manière dans ce film. C'est un homme très élégant dans la vie, je veux dire, il dégage beaucoup d'élégance et tout ça. Et puis là, il est habillé un peu n'importe comment, il a un mode de vie un peu anarchiste, marginal, voilà. Et donc, le pouvoir comique de ces deux personnes et leur justesse d'interprétation a fait un peu... a créé quand même une évidence très très forte, quoi.
Et c'est vrai qu'en fait, l'un et tous, enfin, ils ont beaucoup de choses en commun, mais l'un est tout ce que l'autre n'est pas. C'est-à-dire, ils sont plus ou moins dépressifs, ou ils ont été dépressifs l'un comme l'autre, mais il y en a une qui est dans le déni, qui n'a pas envie de l'admettre, peut-être que c'est trop difficile, et puis l'autre qui, au contraire, en parle beaucoup plus facilement. Est-ce que cette espèce d'écho et en même temps de différence, comment est-ce que vous l'avez travaillé avec vos comédiens?
De toute façon, eux, ils avaient... Voilà, leur mission, c'était d'interpréter ces personnages comme ils le souhaitaient eux, comme ils le comprenaient eux aussi. C'est le but de la collaboration avec les comédiens. Après, il y avait quelque chose à laquelle je tenais beaucoup, c'est que les rapports et les personnages aient beaucoup de tendresse. Et que ce soit pas du tout un film cynique. Parce qu'en fait, quand on commence à essayer d'être drôle, ce qui est quand même très compliqué, vite on peut tomber dans la méchanceté, puisque il y a un fil rapide qui mène au rire, quoi. Et en fait, par exemple, la différence entre ces deux personnages, c'est que elle est régie par la honte et par la volonté d'être parfaite. Et lui a abandonné il y a très longtemps et la honte et la volonté d'être parfait. Et donc, en fait, lui, il fait partie de ces gens. Quand on les rencontre, on pourrait presque croire qu'ils mentent, qu'ils se donnent un genre, qu'ils font semblant d'être cool ou qu'ils font semblant d'en avoir rien à faire. Mais il en a vraiment rien à faire. Et ça, je trouvais ça très intéressant comme personnage. Et Laurent l'a joué avec, selon moi en tout cas, avec une joie et une justesse énormes.
Absolument, il passe vraiment de l'insouciance à quelque chose de plus grave. Et Blanche Gardin est aussi assez extraordinaire dans ce rôle de quarantenaire qui ne s'assume pas complètement, en fait, enfin, ou qui en tout cas commence à sentir des désirs qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'elle vit.
Je ne sais pas si c'est une histoire de changement de désir, mais en tout cas, c'est surtout quelqu'un qui, en fait, refuse à tout prix de céder à la faiblesse, quoi. Je veux dire, elle s'est construite sur l'idée qu'elle allait tout réussir. Elle était la championne de tout. Son travail, c'était de sauver les océans. Donc, évidemment, quand on rate ça, c'est la honte absolue. Et puis, c'est une blessure terrible et une blessure d'anxiété, puisque sauver les océans, c'est être utile dans un monde qui va mal, sur une planète qui va mal. Enfin, voilà. Et... Du coup, ce que je trouve beau, c'est que Blanche a apporté une très très grande sobriété au jeu de ce personnage de Jeanne qui en fait souffre mais n'arrive pas tout à fait à l'exprimer en fait.
Et je dirais qu'il y a aussi un troisième personnage qui lui est portugais et qui peut-être peut un peu marquer un peu ce qu'on fait de nos souvenirs parce que c'est un ancien amant de Jeanne et puis on voit qu'elle va essayer peut-être de retenter quelque chose. Est-ce que votre film parle aussi de ce qu'on fait de sa mémoire, des souvenirs, de sa relation peut-être avec son passé?
Oui, bah de toute façon, c'est l'histoire de quelqu'un qui revient dans un endroit qui fait partie de son passé et qui n'a pas du tout envie d'y aller. Donc à partir de là, ça parle évidemment de tous ces trucs qu'on accumule dans la vie. Et puis à un moment, on se retourne et on se dit « Ah ouais, dis donc, j'ai vécu tout ça, mais comment ça se fait en fait? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je suis devenue un peu plus débrouillarde, un peu plus intelligente ?» Bah non, pas du tout. C'est juste une accumulation d'expériences. Voilà la seule chose que je peux dire. Et ça parle beaucoup de ça, ouais.
Oui, avec une séquence assez formidable d'assiettes qu'on finit par lâcher parce que peut-être que pour aller de l'avant, il faut se séparer de ses souvenirs.
Oui, puis bon, ça parle d'un truc de très simple aussi, hein, mais c'est juste que c'est très difficile de dire au revoir à... Il y a un moment, il faut dire au revoir à une génération, ses parents, ses grands-parents, enfin voilà, ça fait partie de la vie, même si c'est universel, même si tout le monde l'a vécu, même si tout le monde peut te dire « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé », bah au moment où ça arrive, c'est quand même horrible, hein.
Et là, on voit, enfin, au-delà de l'animation, on voit aussi un lien un petit peu avec le repas dominical, où on voit le rapport à la famille, avec quelque chose que je trouve très fort. C'est assez ténu dans le film. Vous avez deux personnages, un frère et une sœur, une intrigue qui est assez fine. Finalement, il faut vendre ou pas cet appartement. Et de là, vous tirez un film assez formidable sur ce que c'est qu'une famille, avec ses injonctions, et puis cette force, cet amour.
Oui, j'étais contente de pouvoir avoir des personnages frères et sœurs dans ce film. Je trouve que la fraternité, quand elle fonctionne, parce qu'elle peut être très dysfonctionnelle et très douloureuse, c'est quand même une grande chance dans la vie. Et c'est assez beau parce que, en fait, c'est une amitié qui n'en est pas une, c'est un amour pas choisi. Et pourtant, comme on grandit ensemble, on apprend à devenir des grandes personnes, à se rendre compte qu'on est différent et à quand même l'accepter. C'est un vœu de tolérance très très fort, la famille, quand on arrive à continuer à s'aimer malgré le temps qui passe.
Merci beaucoup, Margot, pour cette rencontre avec Céline Deveau. Alors moi aussi, j'ai pu voir Tout le monde aime Jeanne. On était à la même projection et j'ai envie d'ajouter qu'on passe un très bon moment. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais le film est drôle. Il y a plein de scènes amusantes. Moi, j'ai aussi aimé les personnages qui se révèlent au fur et à mesure du film, pas forcément là où on les attend. Quand on voit la première fois cette étrange personne à l'aéroport qui reconnaît Jeanne, etc. Enfin, je sais pas comment tu l'as vu. Mais, et à la fin, il y a un chemin de tous ces personnages qui n'est pas tout à fait attendu. Et puis il y a de la mélancolie aussi, ça c'est vrai, on l'a évoqué. Et moi j'ai aussi beaucoup aimé le contraste entre tout le film qui est en prise de vue réelle, majoritairement, le travail des comédiens, et ces petites scénettes avec ce personnage et la voix donc qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais qui est très amusante, des fois très acerbe, qui peut être douloureuse aussi de cette voix intérieure. Enfin, je trouve que ce n'était pas forcément une redite, justement, mais que ça venait ouvrir le film à d'autres endroits que ce qu'il y avait en prise de vue.
Oui, c'est réelle. Une forme d'écriture très nouvelle, en fait. C'est assez rare de voir ça au cinéma.
Et moi j'ai beaucoup aimé la bande originale, je le signale, je le dis, elle est très organique, aquatique, j'ai trouvé vraiment, elle est composée par Flavien Berger.
Et justement pour terminer sur ce film, je vous propose qu'on écoute Céline Deveau sur cette collaboration fructueuse avec Flavien Berger qui remonte à ses premiers courts-métrages.
C'est Flavien Berger qui a fait la musique encore une fois de ce film. On s'est rencontrés quand on était étudiants, donc à l'époque Flavien étudiait le design et moi j'étais aux Arts Déco de Paris, je faisais déjà de l'animation. Et il n'était pas encore chanteur, il n'était pas encore connu. Et en fait, il a fait la musique de tous mes films, y compris mes projets les plus obscurs, les plus pourris, les plus ratés. On a toujours été ensemble. Et comme on travaille ensemble depuis très longtemps, en fait, on a une manière de collaborer qui est un peu spécifique dans le milieu du cinéma, entre guillemets, parce que normalement, la musique, elle arrive à un certain stade de la post-production. Puis, on a un film terminé et on vient poser de la musique dessus. Alors que Flavien me donne de la musique bien avant que je commence à tourner, bien avant que je commence à dessiner. Donc, régulièrement, il me donne des heures et des heures de musique que je peux écouter en dessinant, par exemple. Donc, ça veut dire que sa musique infuse dans mon travail et vice-versa. Et ça donne quelque chose de très organique. Et on a tous les deux une passion pour les sons de la vie, les sons des portes, les sons des voitures, les sons des gens. Et ça, on le met aussi dans notre travail, dans les films, en fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Tout le monde aime Jeanne, de Céline Deveau, est actuellement en salle. En ce moment, vous pouvez aussi découvrir gratuitement sur le site de MK2 Curiosity l'un de ses courts-métrages d'animation, Le repas dominical. Il est super.
Et pour se quitter, quoi de plus naturel que d'écouter un titre issu de la bande originale de Tout le monde aime Jeanne ?
Nous avons choisi Sobrancelia, que l'on n'entend pas dans le film, mais seulement au générique de fin, un titre composé donc par Flavien Berger.
Vous écoutez Caméra Subjective, une émission consacrée au cinéma. Vous êtes sur Radio G, que vous écoutez sur le 101.5 FM. Et nous accueillons maintenant une nouvelle voix avec une nouvelle chronique. C'est finalement une carte blanche pour Matt qui fait sa rentrée.
Bonsoir à tous, je suis très heureux de rejoindre l'équipe de Caméra Subjective pour cette rentrée de la saison 2022-2023. Je suis très heureux et en même temps, qui dit rentrée de Caméra Subjective ? Bah dit rentrée, hein. Et moi, quand on me parle de rentrée, depuis l'école maternelle, bah, ça me met un petit peu en angoisse, hein. Je pense qu'on est tous un peu pareil, le mois de septembre, c'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances, mais, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, car au cours de ma jeune existence, j'ai dégoté quelques techniques que je vais vous partager pour vaincre la morosité de ce début de saison. Je vous conseille tout simplement de faire des activités qui vous font plaisir. Moi, par exemple, ce qui me détend, c'est d'aller au cinéma, mais aussi d'acheter et de m'occuper de plantes vertes. Alors, je vous aurais bien parlé de mon week-end passé chez Jardiland entre le rayon terreau et fertilisant naturel, mais je conçois que ça ne rentre pas forcément dans la ligne éditoriale de Caméra Subjective. Là, j'entends déjà les auditeurs mécontents appeler en masse le standard de Radio G en demandant ma démission. Et pour cause, je dénaturerais complètement leur émission de cinéma préférée. Vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais les animatrices historiques de Caméra Subjective sont en train de se regarder l'air inquiète en se disant « Mais mon Dieu, comment allons-nous caler une chronique sur l'aloe vera et la pilée à grimpante entre notre entretien avec Arnaud Desplechin et notre interview de Xavier Dolan ?» Mais rassurez-vous, chers auditeurs, dans ces petites chroniques, je parlerai bien de mon premier remède face à la dépression de la rentrée, le cinéma. Donc en cette rentrée, j'ai regardé les sorties cinéma avec attention, à la recherche de films légers, insouciants, qui feraient effet d'un armada de psychotropes sur ma personne, et je suis tombé sur The Retaliator, un film de Samuel Gonzalez. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai lu le synopsis. Un honnête pasteur découvre un monde souterrain sombre et tordu alors qu'il cherche des réponses concernant le meurtre brutal de sa fille. Donc comment vous dire, ça a l'air sympa, petit film de genre, pourquoi pas, mais j'imaginais quelque chose, j'avoue, de plus léger, donc j'ai continué à chercher et je suis tombé sur le film Sunset Mother de Peter Karakes, qui nous raconte l'histoire de Leïsa, qui donne naissance à un petit garçon dans une prison d'Odessa en Ukraine, et qui va tout tenter pour ne pas être séparé de son fils. Bon, ça a l'air super, j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air super déprimant. Donc j'ai continué à chercher. Et là, je vois le film Feu Follet de Yao Pedro Rodriguez, un film portugais récompensé à la quinzaine des réalisateurs. Je me suis dit, un film portugais, bon, le Portugal, c'est le sud, hein, c'est le soleil, c'est la fête, c'est les pastels de Nata. Mais qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver de pire? J'ai lu le synopsis, en plus... Alfredo est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse. Alors je me suis dit, ah, peut-être un feel good movie. Alfredo est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse alors qu'il est sur son lit de mort. Bon, au bout d'un moment, j'ai l'impression que les distributeurs avaient quelque chose contre moi. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien regarder pour aller mieux? Mais grâce à Caméra Subjective, maintenant je sais que je dois aller voir Tout le monde aime Jeanne. Ne pouvez pas aller au cinéma voir ce film... Eh bien, je vous conseille peut-être d'aller faire un petit tour chez Jardiland, car à chaque problème, sa solution, ou plutôt, à chaque petite déprime, sa petite plante verte.
Merci, Matt.
Bravo.
Le dernier sujet de cette émission porte sur un film qui sort la semaine prochaine, le 21 septembre. Nous l'avons découvert pendant l'estival Premier Plan, et Margot, il t'a beaucoup plu.
C'est vrai, la salle était pleine pour assister à la projection de ce film, Libre Garance, et pour participer à la rencontre avec sa réalisatrice, Lisa Diaz. Dans le public, des enfants, des jeunes et puis des adultes, à l'image de ce film généreux et solaire qui s'adresse à tous à partir de 9-10 ans. Je vous propose de commencer par écouter un extrait de la bande-annonce, puis nous entendrons Lisa Diaz commenter quelques aspects de son film. Ses propos ont été enregistrés lors de la rencontre avec le public de l'estival.
Furent des gangsters, il ne sera retrouvé que quelques heures plus tard sur une route communale, liée aux brigades rouges.
C'est pas des copains de vos parents, ça. Des gauchistes.
Allez, venez, on rentre.
Mais non. Mais pourquoi?
La présence de ce criminel dans les environs.
Qu'est-ce que tu fous?
Viens, je vérifie que c'est pas un espion.
Et vous cherchez qui, en fait? Allez fouiller chez nous. On l'a caché dans l'île de la Petite.
Allez, les gars, allons-y.
Jacques, c'est pas les brigades rouges.
Excuse-moi, mais enfin, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est juste du banditisme, c'est tout.
Le problème, toi, Simon, c'est que tu crois en rien.
Tu penses qu'ils vont faire quoi?
Je pense qu'il va avoir prison à vie. Mais à mon avis, si les flics le prennent, ils vont le descendre.
Nous sommes au début des années 80. Vous l'avez peut-être reconnu grâce à la musique. Les 70s rugissantes ne sont pas loin, avec leur lot de révoltes politiques, de violences et d'aspirations à une société alternative. Les parents de Garance, l'héroïne du film, sont installés dans un mas des Cévennes, où ils cultivent leur jardin et s'investissent dans la vie de leur village. Et surtout, ils passent leur temps à refaire le monde et à débattre de politique avec leurs voisins. C'est dans ce climat joyeusement militant que grandissent Garance et sa petite sœur. Garance a 12 ans et elle s'apprête à passer un nouvel été insouciant avec ses amis quand la télévision leur apprend la cavale d'un Italien qui a braqué une banque et tué un policier. Alors, bien sûr, cet été ne sera finalement pas comme les autres. Il sera l'occasion pour Garance de grandir et de goûter pour la première fois à la liberté, celle que l'on se choisit, comme le suggère le titre du film « Libre Garance ». On écoute maintenant la réalisatrice nous parler de son personnage.
La manière dont elle va grandir, c'est justement en se frottant à la question politique, vraiment. Voilà. Pas du désir, pas de je sais pas quoi, comme dans d'autres films sur l'adolescence, mais vraiment de comment on va s'inventer quelque chose, quoi. En fait, oui, c'était ça, l'idée qu'elle invente son propre chemin de liberté à l'intérieur du discours de ses parents, de la vie qu'il mène, des adultes en général. Et elle est là dans son monde aussi d'enfance, avec les enfants autour d'elle, où elle essaye aussi ses propres choses, sa radio pirate, etc., etc. Donc c'est comment elle va prendre sa liberté, jusqu'à peut-être un peu se brûler les ailes, mais voilà, inventer son propre chemin d'action Et j'aimais bien, quand on a trouvé le titre aussi, l'idée que c'était comme quelque chose aussi que moi, je sais pas, réalisatrice, je lui chuchotais dans l'oreille. C'est-à-dire, prends aussi ta liberté, vas-y, essaye, quoi. Essaye quelque chose. Et globalement, à nous tous, peut-être, essayons nos propres chemins de croyances utopiques ou voilà, de choses comme ça.
L'utopie d'un monde différent, quitte à l'instaurer par la violence, c'est probablement ce qui anime Tozzi, l'Italien recherché par la police et le second personnage important du film. Il se cache dans la montagne et au cours d'une promenade, Garance le découvre. Et le film qui jusque-là reposait sur deux camps assez imperméables, celui des adultes d'un côté et puis celui des enfants, va basculer dans la rencontre de l'ombre et la lumière de Tozzi et Garance.
Il y a quelque chose que j'avais envie qui traverse le film, mais c'est vraiment dessous, donc je vous lis, c'était vraiment l'idée du conte. Donc, par exemple, quand elle monte dans la montagne, je l'habille en rouge, comme un chaperon rouge qui va dans la forêt, et qui va tomber sur le loup. Voilà, donc cet homme, c'est comme un loup tapis dans l'ombre, etc., et je lui fais cette espèce de barbe comme ça. Et même dans la manière de le filmer, même de l'éclairer, on l'a mis comme ça un peu dans l'ombre, et elle va l'apprivoiser, c'est-à-dire que petit à petit, même la caméra qui est un peu à distance va peu à peu s'approcher de lui, quand même elle va s'approcher de lui et arriver à être un petit peu plus à l'aise avec lui, peu à peu, quoi. Même si elle reste toujours un peu sur ses gardes, comme ça, parce qu'il peut effectivement lui sauter à la gorge, ce qui arrive à la fin. C'est vrai que Simone Liberati est un Italien, donc c'est pas les mêmes manières de travailler, ou je sais pas, tout d'un coup ça nous changeait de registre, et j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que tout d'un coup on arrive dans la montagne et on est différent, on est dans un endroit différent, quoi, même dans le jeu d'acteur. Et alors, il ne parlait pas du tout français. Moi, je parle italien, donc on parlait en italien sur le plateau. Et il apprenait tout par cœur. Enfin, c'est incroyable, parce qu'il a appris par cœur ses dialogues, et il est quand même très, très naturel.
Et ce naturel, on le retrouve aussi dans le ton du film de Lisa Diaz. On sent vraiment que la réalisatrice, qui s'est inspirée de son enfance dans les Cévennes, a pris plaisir à filmer ses jeunes comédiens. Ils se déguisent, ils lancent une radio pirate, ils collectivisent leurs jouets ou ils vont se baigner dans les ruisseaux. Et ces séquences, elles sont merveilleuses de justesse. Elles doivent beaucoup au talent de la jeune Azu Gardao qui interprète le personnage de Garance, mais il y a aussi l'intensité de la bande sonore du film. C'est un élément auquel on ne prête pas forcément attention quand on est plongé dans une histoire, mais la musique ou les bruitages participent de façon très forte à instaurer bien sûr une époque, mais aussi une ambiance ou même un sentiment. Dans Libre Garance, Lisa Diaz nous fait découvrir le son de l'été.
Parce que du coup, Garance, c'est une aventurière, voilà, aussi, elle va arpenter sa campagne, etc. Elle est très libre aussi dans ce sens-là. Et du coup, pour rendre ça, il me semblait qu'effectivement, le son de l'été, c'était... Et c'est aussi mes souvenirs d'enfance, hein. C'est les criquets, comme vous dites, les cigales, les oiseaux, voilà. Et moi, j'avais envie vraiment qu'on rentre dans sa sensibilité à elle, sonore et visuelle, et même du toucher quand on voit peut-être la pluie, les sensations, quoi. Il y a quelque chose aussi que je peux dire et qui est un peu triste, en fait, c'est que quand on enregistre le son aujourd'hui, alors la Lozère, c'est quand même moins pire que dans d'autres endroits, mais il y avait quand même moins d'oiseaux, moins d'insectes, hélas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et vraiment, pour moi, par exemple, les souvenirs de mon enfance, c'est tout ce bruit d'oiseaux quand on se promène dans une forêt, et c'est quand on marche dans un champ, c'est très, très bruyant. Et là, ça l'était un peu, mais on en a rajouté plein.
Libre Garance est un film réalisé par Lisa Diaz. Il sortira en salle dès la semaine prochaine, et vous l'avez compris, on vous le recommande chaudement, et on le recommande en particulier à Matt, bien sûr.
Oui. Caméra subjective, première émission de la deuxième saison, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez retrouver l'émission en intégralité ainsi que toutes les références citées à la page de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, et il y a même les podcasts de toute la saison passée pour les fans. On se retrouve dans deux semaines avec d'autres voix, d'autres regards, mais on peut déjà vous annoncer un entretien avec la réalisatrice Mia Hansen-Love à propos de la sortie de son film Un beau matin.
Et avant de nous quitter, on revient quelques années en arrière avec la réalisatrice Agnès Varda et l'artiste JR. Ils sont en Suisse, à Rolles, et ils tournent un film, Visage Village. Ils ont rendez-vous avec un certain Jean-Luc Godard. Les voilà dans une rue calme, ils s'approchent d'une maison au volet vert.
Tu vois une sonnette?
Je vois pas de sonnette, non.
Dedans, il y a une sonnette. C'est fermé à clé. Oh, c'est des volets en fer. C'est une blague.
Jean-Luc!
Jean-Luc!